Alors, le chef d'État et des gouvernements africains ont officiellement lancé dimanche 7 juillet l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange économique continentale, les ZLEC en sigle. La cérémonie a eu lieu à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine tenu du 17 au 8 juillet à Niamey au Niger. L'objectif majeur est d'aller à terme vers une zone de libre-échange doublée des marchés communs et caractérisée par la libre circulation des investissements et des travailleurs. Comment analyser cette initiative? C'est l'objet du débat de ce soir. Et nous avons au téléphone Jean-Lucien Boussin, il est député national et membre du Front commun pour le Congo. Il est ancien ministre d'État au commerce extérieur. Bonsoir, monsieur Jean-Lucien Boussin.
Bonsoir, je suis sénateur, j'ai opté pour le Sénat.
Merci pour la précision. Ici au studio, nous avons Noël Tchani Mouadian-Vita. Il est économiste international et candidat à la présidentielle de 2018 en RDC. Bonsoir, Noël Tchani Mouadian-Vita.
Bonsoir, merci de me recevoir à Radio Okapi.
Et Al Kitenge, analyste économique et stratège. Bonsoir, monsieur Al Kitenge.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les pays membres de l'Union africaine ont lancé symboliquement dimanche à Niamey la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEC en sigle, qui doit constituer un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial au monde. Blaise Makassi pour les détails.
L'entrée en vigueur de la ZLEC est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et sa transformation en Union africaine, a affirmé le président Mahamadou Issoufou, l'un des plus ardents promoteurs de la zone. La zone de la libre-échange continentale africaine, ZLEC, constituera à terme le plus grand marché commun du monde. Pour l'heure, une première phase symbolique a été lancée dimanche 7 juillet lors du sommet de l'Union africaine à Niamey, au Niger. À terme, l'objectif est d'organiser le libre-échange à l'échelle du continent africain pour au moins 90% des produits. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché, dont le siège sera à Accra. Seule l'Érythrée n'a pas signé l'accord, mais a annoncé qu'elle était disposée à le faire. Le marché devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a mis en exergue le rôle qu'entend jouer la RDC dans la zone de libre-échange continentale. Ce projet devra permettre la création de marchés de plus d'un milliard 200 millions de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars américains. Le principe de la ZLEC étant d'éliminer d'ici 5 à 10 ans les droits des douanes sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires, les pays membres devront ainsi remettre leur liste de produits dédouanés, dits non sensibles, et se mettre d'accord sur les règles d'origine. Pour le chef de l'État congolais, c'est un objectif qui pourra être atteint grâce à un combat farouche mené contre l'insécurité et les différents conflits qui déstabilisent l'Afrique. Dès par sa position géographique, au carrefour de plusieurs organisations sous-régionales, la République démocratique du Congo a un rôle important à jouer dans l'intégration africaine préconisée par tous les chefs d'État au sein de l'organisation.
Merci à vous Blaise Makassi. Jean-Lucien Boussa, sénateur et membre du Front commun pour le Congo. Vous êtes ancien ministre d'État au commerce extérieur. L'Union africaine vient enfin de lancer la ZLEC, zone de libre-échange économique continentale. L'émission est aussi pédagogique. C'est quoi une zone de libre-échange économique?
Non, la zone de libre-échange continentale africaine, comme vous l'indiquez si bien, est un espace économique que l'Afrique voudrait favorable à la circulation, à la libre circulation des personnes et des biens. Deux éléments importants, c'est la réduction ou même la suppression des obstacles douaniers, des obstacles tarifaires et non tarifaires, pour nous résumer là. À terme, l'idée est celle de l'intégration économique africaine, jusqu'à ce que finalement on arrive à ce qu'on appelle les accords douaniers qui mettent en exergue les commerces, comme vous l'avez dit, les libre-échanges entre les différents pays africains. Mais je crois qu'on peut noter à ce stade ici la levée, le processus de levée des obstacles tarifaires et non tarifaires afin de faciliter le commerce entre les pays africains.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pousse les Africains à prendre une telle initiative en ce moment-ci?
Je pense qu'aujourd'hui, les défis de la RDC, les défis africains, c'est celui de l'intégration économique. Mais les défis de l'intégration économique aussi, c'est le défi de la compétitivité des économies africaines et celui de la transformation structurelle de nos économies. Je prends le cas de la République démocratique du Congo pour être plus concret. La République démocratique du Congo consomme plus ce qu'il produit très peu ou ne produit pas du tout, et produit davantage ce qu'il ne consomme presque pas ou ne consomme pas du tout. Et donc la structure des exportations dans notre pays, par exemple, aujourd'hui, c'est plus de presque 94% des produits primaires et 6% seulement des produits manufacturés, tandis que la structure de nos importations indique que nous importons 70% de produits manufacturés et 30% de produits alimentaires et pharmaceutiques. Il y a un déficit de transformation structurelle de notre économie et la caractéristique de l'économie congolaise est celle de beaucoup d'autres pays africains, à quelques exceptions. L'économie sud-africaine, nigériane, etc. L'économie des pays du Maghreb, Égypte, Maroc peuvent être considérées comme des exceptions par rapport à cette règle basique. D'où la nécessité de faire du commerce ou des échanges intra-africains les leviers du développement économique, sinon les leviers de la croissance économique des pays africains. Seulement, voilà, il y a beaucoup d'autres, il y a des contraintes qu'il faut signaler ici. Les quelques contraintes sont les suivantes, les plus importantes. C'est le déficit de connectivité, mais c'est aussi le déficit énergétique. Et j'ai indiqué tout à l'heure la faible compétitivité de notre économie. Ces obstacles font, ces contraintes doivent être levées pour permettre finalement aux économies africaines de s'intégrer dans une perspective qui permet aux unes et aux autres de se servir des échanges intra-africains qui sont très faibles comme levier de la croissance économique des pays africains.
Alors, avec la création des SLEC, qu'est-ce qui pourrait changer concrètement dans les échanges commerciaux entre les pays africains et ses partenaires classiques, notamment les Asiatiques et les Européens?
Non, mais d'abord, il faut commencer par dire que le commerce intra-africain représente moins de 20% des échanges. Ça, c'est un. Et donc, le reste, c'est le commerce entre les pays africains et les pays asiatiques, etc. Mais il faut aussi noter que c'est une dynamique à moyen et long terme. Pendant ces temps, l'Afrique doit travailler pour la transformation structurelle de son économie. Je pense qu'il faut ici considérer que chaque pays doit faire un effort, surtout les pays comme le nôtre, pour réaliser cette transformation structurelle, afin de transformer la structure de cette économie. Aujourd'hui, les données que j'ai indiquées tout à l'heure en termes d'exportation et d'importation, mais c'est plus la relation import-export entre l'Afrique et l'Asie, ainsi que l'Europe. Mais cette relation import-export entre les pays africains est très faible. Il faut relever le niveau de l'intégration économique africaine, et ceci peut être poussé, entre autres, par le fait de la facilitation du commerce intra-africain.
Alors, dans cet espace, logiquement, ce sont les pays les plus industrialisés, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud, qui pourraient être, n'est-ce pas, les grands bénéficiaires de cet espace.
Ben oui et non, parce que, comme vous savez, déjà, le Nigeria a hésité jusqu'à ce que finalement il vienne à décider de pouvoir signer. Je pense qu'il faut considérer cette volonté africaine comme une volonté politique africaine à pouvoir pousser chaque pays africain en retard ou à une économie intermédiaire de pouvoir travailler à l'interne afin de résorber les différents défis qui se posent à nos économies. Au-delà du fait que l'Afrique a une volonté politique claire exprimée à Niamey, il y a le fait que cette volonté soit transformée en des politiques publiques internes pour la transformation structurelle de nos économies et nous permet de nous adapter à ces défis-là. Vous prenez l'exemple de la Chine qui, à 40 ans, n'était pas à ce niveau-ci, mais la Chine a travaillé, la Corée du Sud et autres. Donc, on ne peut pas considérer que, parce que la RDC à un niveau économique qui ne soit pas au même niveau que l'Afrique du Sud ou le Nigeria, que nous ne pouvons pas nous organiser à l'interne pour devenir compétitifs et capter les opportunités que nous offre notre intégration aux économies africaines.
Et à quel niveau, à votre avis, ces projets pourraient être bénéfiques pour les pays les moins industrialisés comme la RDC, parce que vous avez évoqué d'autres...
Mais il est clair que nous sommes un pays avec 9 frontières déjà. Si nos politiques économiques sont bien impulsées et que nous considérons que nous sommes l'Afrique a un marché de plus d'1,25 milliard de consommateurs, mais nous devons identifier quels sont les produits sur lesquels nous pouvons axer nos priorités pour nous permettre finalement de tirer le meilleur parti de notre présence en Afrique.
Merci. Merci Noël Tchani Mwadiavita, économiste international et candidat à la présidentielle de 2018 en RDC. Comment vous analysez cette initiative des pays africains?
D'abord, je pars du principe que je suis un fervent croyant dans la dynamique de l'intégration régionale, de l'intégration africaine. Pourquoi? Parce que je considère que les pays africains pris individuellement ont des marchés relativement petits. Marché relativement petit, ça veut dire qu'ils offrent individuellement des opportunités d'investissement beaucoup plus réduites pour surtout des investissements étrangers. Je donne un exemple. Lorsque nous regardons la République démocratique du Congo, nous avons une population aujourd'hui de 92 700 000 personnes. Une entreprise qui vient investir en République démocratique du Congo et qui n'a comme vocation que de vendre ses produits à la population africaine, elle va vendre à 92 700 000 personnes. Mais si cette entreprise sait aussi qu'en investissant en République démocratique du Congo, elle aura l'occasion de vendre ses produits, non pas simplement à la population de la RDC, mais également à la population africaine qui est de 1 milliard 400 millions de personnes. Je crois qu'en ce moment-là, on peut justifier de gros investissements en République démocratique du Congo avec l'idée que le marché est très large, le marché africain de 1,4 milliard de personnes. Donc, on peut justifier de gros investissements et quand on justifie de gros investissements, ça crée des opportunités d'emploi pour la population congolaise, mais aussi pour la population africaine. Ça, c'est le côté positif.
Mais souvent, les plus grands bénéficiaires, ce sont ces pays étrangers qui viennent investir, n'est-ce pas?
J'arrive.
Parce que les richesses qui sont créées sont rapatriées dans ces pays.
J'arrive. Je pense que quand il y a investissement, tout le monde a quelque chose à gagner. Par exemple, pour nous, les Congolais, qu'est-ce que nous pouvons gagner? Rien que la création d'emplois, nous avons beaucoup de chômeurs. En République démocratique du Congo, on a pratiquement 85% de la population active au chômage. Moi, je considère que chaque emploi qui est créé sort un Congolais du chômage et par conséquent réduit la pauvreté. Parce que une fois que la personne est sortie du chômage, la personne aura un salaire. Le salaire lui permettra de se supporter, de supporter sa famille. Donc, c'est quelque chose de positif pour nous, les Congolais, ou pour les habitants de chacun des pays africains. Mais maintenant, nous devons savoir, est-ce que les entreprises étrangères qui veulent investir en Afrique choisiraient par exemple la République démocratique du Congo comme destination des investissements, ou bien choisiraient un autre pays africain en préférence à la République démocratique du Congo? C'est là que nous pensons que des réformes qui ont été menées jusqu'à présent ont un caractère très dissuasif pour certains investissements étrangers. Dissuasif en ce qui concerne la RDC. Pourquoi? Parce que quand on regarde le classement des différents pays, d'après ce qu'on appelle le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale, qui classe les pays d'après le niveau d'attractibilité du climat des affaires. Nous sommes classés aujourd'hui 161e sur 180 pays à travers donc le monde. À travers le monde, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes une mauvaise destination des investissements par rapport à d'autres pays africains. Je donne l'exemple du Rwanda ici à côté. Le Rwanda est considéré comme étant une très bonne, excellente opportunité donc d'investissement, une bonne destination des investissements par rapport à la République démocratique du Congo quand on utilise ce rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Donc, si une entreprise étrangère a à choisir à investir au Rwanda ou en République démocratique du Congo, sachant que quel que soit là où elle va investir, elle pourra produire, utiliser ses produits pour les vendre partout sur le continent africain, il va choisir donc d'aller au Rwanda. C'est là que les réformes que nous avons menées jusqu'à présent pour le Congo, en RDC, ne sont pas suffisantes. Donc l'entrée dans cette zone de libre-échange, c'est une bonne initiative, sauf que nous avions besoin d'une meilleure préparation que ce que nous avons fait jusqu'à présent.
Donc, assainir le climat des affaires.
Assainir le climat des affaires, faire des investissements nécessaires, par exemple, les investissements nécessaires, l'énergie, les infrastructures telles que l'eau, les déplacements intérieurs, intégrer le marché congolais déjà. Donc tous ces investissements n'ont pas été faits.
Et donc les pays africains, plus particulièrement la RDC, a des préalables, n'est-ce pas, à accomplir avant d'adhérer à ces projets.
J'ai dit que la RDC a beaucoup de préalables à accomplir avant que nous puissions bénéficier pleinement de l'adhésion à cette zone de libre-échange au niveau africain. Comme le sénateur Boussa, Jean-Lucien Boussa a dit tout à l'heure, les autres pays ne vont pas nous attendre. Les autres pays sont en train d'avancer, ils ont déjà fait beaucoup de progrès. Nous, nous sommes en retard. C'est là que je pense qu'il est très important que nous puissions, au niveau du Congo, prendre certaines choses au sérieux. Ce n'est pas normal, par exemple, que nous passions 6 mois sans avoir un gouvernement, comme si on n'est pas pressé pour faire certaines choses. Et je pense que nous devons avancer très rapidement, avoir un gouvernement à place, avoir un plan d'action bien clair et commencer à faire ces réformes-là pour que nous puissions rattraper le retard que nous avons par rapport à d'autres pays africains afin d'attirer des investissements donc extérieurs et créer des emplois pour le peuple congolais.
Le principe de la ZLEC, la zone de libre-échange économique continentale, étant d'éliminer d'ici 5 à 10 ans les droits des douanes, Monsieur Noël Tchani, la perte des recettes douanières sera-t-elle compensée par quoi?
Moi, je pense qu'en tant que pays, nous avons besoin de faire une étude de l'impact de cette adhésion sur l'économie congolaise et particulièrement sur les recettes douanières. Parce que le gros des ressources que nous avons aujourd'hui, qui constituent donc les ressources budgétaires, proviennent donc des droits des douanes et assises. Donc, quand on va lever certaines de ces restrictions de tarifs douaniers, je comprends que la moyenne donc de taux d'imposition des tarifs entre pays africains s'élève à peu près donc à 6,1% du montant donc des marchandises. Alors, quand on va perdre donc cette source-là, il faudrait qu'on puisse trouver une source de substitution pour que nous puissions continuer à avoir un budget consistant et qu'on utilise ce budget-là pour financer donc des priorités nationales, certains projets donc d'investissement. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant d'une étude de l'impact qui serait faite par la RDC pour déterminer si effectivement on ne sera pas négativement affecté par cette adhésion-là.
Alors, les mêmes réalités se retrouvent presque partout en Afrique. Vous ne pensez pas que les Africains sont allés trop vite dans ces projets? Est-ce qu'il ne fallait pas, comme vous l'avez dit, réaliser certains préalables avant d'envisager, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces projets?
Tous les pays ne se trouvent pas dans la même situation. Je connais des pays africains qui sont très avancés par rapport à la République démocratique du Congo en ce qui concerne certaines réformes prioritaires qu'on devait faire. Par exemple, je sais que le Ghana, le Rwanda, le Botswana, l'Afrique du Sud présentent un bon environnement des affaires et sont très bien classés dans le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Ces pays-là ont fait le travail que nous, on aurait dû faire donc il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des pays qui ont fait ce travail préliminaire, préparatoire et qui sont dans une meilleure position aujourd'hui par rapport à la RDC. Et moi, je souhaiterais que la RDC puisse mettre le pied sur l'accélérateur afin que nous puissions donc rattraper ce retard et nous positionner confortablement, lancer cette industrie locale afin d'être à mesure de produire localement des produits finis que nous pouvons non seulement consommer au niveau de la RDC, mais également exporter vers d'autres pays africains afin de prendre avantage de cette zone de libre-échange au niveau africain.
Al Kitenge, analyste économique et stratège, zone de libre-échange économique, ZLEC en sigle. Quel rôle la RDC pourrait-elle jouer dans cet ensemble en ce moment-ci? Vous avez suivi le professeur Monsieur Noël Tchani qui parle de certains préalables, n'est-ce pas, qui doivent être réalisés mais qui ne sont pas encore accomplis. Quel rôle la RDC pourrait-elle jouer?
D'abord, c'est un grand changement disruptif qui va arriver. Et c'est une très bonne chose que ça arrive avec un président qui arrive aussi en poste. Donc il a les manœuvres pour être à mesure d'intégrer dans sa stratégie ce changement majeur. Et je voudrais simplement ici rappeler une chose, et elle est fondamentale. Nous avons ici l'opportunité de nous doter d'un plan stratégique de travail. On n'en a pas un pour la RDC déjà, et on risque de se retrouver ballotté dans tous les sens dans cette phase de transition vers la zone de libre-échange. Donc il est important que nous nous dotions d'un agenda stratégique pour travailler en interne, de sorte à nous préparer à interagir correctement avec la zone élargie. Cela voudrait dire qu'en fait, nous devrions être en mesure de mettre en place une task force immédiatement pour commencer à travailler sur les avantages comparatifs de la République démocratique du Congo afin de pouvoir nous intégrer sous notre leadership dans cet ensemble beaucoup plus élevé. Mais je vous dis deux choses. La première, c'est que nous avons, de par la nature, une position d'intégration et d'intégrateur. Nous sommes au centre du continent, nous cassons l'économie du Nord avec celle du Sud et nous sommes le point noir. Et nous sommes le point noir à double titre. Le premier titre, c'est les infrastructures physiques. Quand on vient du Maroc et qu'on voudrait aller vers l'Afrique du Sud, nous sommes le point de rupture. Quand on fait le sens inverse, même chose. Donc, il est très important d'avoir la jonction physique, d'où l'importance de ce pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Deuxième, nous sommes le point de rupture numérique. Nous sommes le pays qui ne produit pas d'informations. Nous sommes le pays qui ne donne pas de manière intégrée en temps réel les informations sur le continent. Et ça, c'est des devoirs que nous devons être en mesure de mettre en place. Maintenant, par quel point, et ça c'est le deuxième volet de mon intervention, par quel point nous entrons dans cette zone de libre-échange? Notre point fort, l'élément sur lequel le continent entier nous attend, c'est le potentiel hydroélectrique et le potentiel solaire que nous avons, qui représente le poumon du développement du continent. On ne peut pas se développer sans énergie, et l'énergie du continent se trouve chez nous, et nous le savons. C'est une responsabilité géostratégique extrêmement importante. Et donc, nous avons besoin d'un plan pour consolider la République démocratique du Congo, et c'est une opportunité que Félix se donne cet agenda en temps réel, et c'est notre opportunité de savoir que nous apportons ce qui manque au continent entier, ça veut dire le potentiel hydroélectrique que personne n'a, ni sur le continent, ni dans le monde.
Alors, est-ce que vous pensez que, parce que vous avez dit que nous sommes attendus sur le potentiel hydroélectrique, n'est-ce pas, qui est important chez nous, et c'est un projet à long terme, vous pensez que d'ici 2 ans, 3 ans, on pourrait réaliser ces projets pour que nous soyons aussi en bonne posture, n'est-ce pas, dans cet espace?
À force de réfléchir comme ça, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Pour faire tout ce que nous avons comme potentiel hydroélectrique au Congo, les 110 000 MW de potentiel, on a besoin de 10 à 15 ans de travail. Ça veut dire, si on commence, chaque 2 ans, il y a une partie qui entre en production, parce que c'est ce qu'on appelle les projets modulaires. Il faut commencer. À l'époque où Thabo Mbeki s'est impliqué pour que Hassan City nous pacifions, ce n'était pas pour nos beaux yeux. C'était parce que l'Afrique du Sud allait entrer en récession économique, et ils sont en récession économique parce qu'il manque de l'énergie. Le Nigeria, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est la plus grande économie africaine, le Nigeria est en rupture d'énergie. Ils n'ont pas d'énergie, ils fonctionnent à de l'énergie polluante. Nous avons la source la plus propre et qui puisse exister sur Terre d'énergie, et nous en avons seulement, non seulement pour nous, mais pour le continent entier. Et il est important que nous jouions notre rôle, et il est important que nous ayons un plan dessus. Et ma proposition est la suivante. L'Europe entière est sur un seul réseau unique électrique. Nous pouvons être le départ d'un réseau continental et qui peut se connecter à l'Europe sur le plan de l'énergie électrique. Et donc la première des choses dont on doit prendre conscience, c'est le fait que nous n'avons ni la capacité technique ni la capacité financière de faire tout ce grand projet énergétique. Il est donc important de verser tout ce que nous avons comme potentiel dans un projet international. Ce que j'appelle international, ça veut dire continental, pour que nous ayons la capacité de développer ce potentiel qui peut nous permettre de pouvoir jouer notre rôle, mais également d'engranger des revenus. Parce que vendre de l'électricité et déployer de l'électricité sur tout notre territoire nous donne un point d'attractivité extrêmement important qui peut permettre que les industriels décident de venir s'installer chez nous.
Alors, vous dites qu'il faut 10 à 15 ans, n'est-ce pas, pour réaliser ce projet hydroélectrique?
Je dis aussi que c'est modulaire. Ça veut dire qu'en fait, chaque 2 ans, il y a une partie qui va entrer en production et qui va commencer à livrer des résultats. Et je voudrais vous rappeler ici que nous avons eu un président qui a fait 18 ans au pouvoir. S'il avait commencé le jour où il est arrivé au pouvoir, il aurait terminé.
Voilà, là nous sommes devant un fait accompli. Nous adhérons, n'est-ce pas, à ces projets. Est-ce que nous ne serons pas, nous, la RDC, en retard par rapport à d'autres pays africains? Parce qu'il y a des préalables qu'il faut commencer par réaliser d'abord.
Les premiers préalables, c'est d'avoir un plan de travail. Nous n'avons déjà pas un agenda national. Il est important que nous ayons un agenda national, qu'on décide comment nous voulons vivre ensemble et comment nous voulons intégrer nos 26 provinces.
Et c'est la question que je posais à M. Noël Djani. Est-ce qu'on n'y est pas allé trop vite en besogne?
On n'y est pas allé trop vite. On n'a jamais commencé. Il faut donc un jour commencer. J'ai entendu ce genre de discours lorsque le président Kabila a décidé, à la suite de tout le processus parlementaire, de passer de 11 à 26 provinces. Vous savez ce que ça a donné? Ça nous a ouvert les yeux sur notre crime social que nous avons toujours commis dans ce pays. En fait, il n'est jamais tard pour commencer. Le plus important, c'est la dynamique. La chose la plus mauvaise, c'est de freiner l'élan. Nous sommes dans un élan d'intégration africaine et il est important que nous jouions notre rôle. C'est dans la dynamique que nous allons changer. Ce n'est pas en restant statique qu'on va changer. J'ai entendu des débats assez ridicules sur cette question de port en eau profonde jusqu'aujourd'hui. Mais ça fait une trentaine d'années qu'on aurait dû le faire, qu'on ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait qu'on va empêcher le reste de choses à être faites. Je crois simplement que nous devons être en mesure d'avoir une gouvernance sérieuse, dynamique et planifiée.
Voilà. Depuis toujours, les pays africains ont toujours été utilisés comme un vaste marché pour les industries asiatiques européenne. Et maintenant, avec la création de cette zone, vous ne pensez pas que ces puissances, n'est-ce pas, qui gagnent beaucoup d'argent en venant écouler leurs marchandises ici, seront préjudiciées par ces projets?
Ce que vous êtes en train de dire était ce que les Américains pensaient des Chinois. Et pourtant, la Chine s'est développée et l'Amérique s'est diversifiée. Nous sommes un continent qui doit se développer. Et le développement du continent n'est pas au détriment de l'Occident, et le développement de l'Occident n'est pas au détriment du continent. Regardez ce qui est en train de se passer sur le plan de la migration. Ça montre clairement que le développement, le progrès, c'est une matière à partager. Nous ne pouvons nous développer que ensemble.
Merci Jean-Lucien Boussa. Monsieur Noël Djani, je vais vous donner la parole. Jean-Lucien Boussa, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
C'est Paula Sengangabo. Je vous appelle depuis la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Cette initiative est louable et à féliciter. Je pense que les Africains doivent commencer par apprécier eux-mêmes les produits et services qu'ils vendent. Les échanges commerciaux inter-africains avec l'annulation des barrières commerciales permettront non seulement d'élargir les champs d'action commerciales des entreprises nationales, mais les pousseront aussi à limiter les Africains face à l'envahissement des produits hors zone et face à la concurrence féroce qu'elle livre les pays occidentaux et asiatiques. Par ailleurs, je pense que cette initiative permettra à combattre la contrefaçon des produits et à favoriser l'industrialisation dans les marchés économiques du continent. Quant à la RDC en particulier, cette initiative peut avoir son succès compte tenu de la qualité et le sérieux de nos diplomaties et gouvernements.
Monsieur Jean-Lucien Boussa.
Bien sûr, oui, j'ai bien de suivre notre ami Kisangani. Il encourage l'initiative et il a raison. Il parle de l'industrialisation, il a aussi raison. Parce que j'ai parlé de la transformation structurelle de notre économie. Si nous voulons capter les opportunités que nous offre la zone de libre-échange continentale, nous devons devenir une économie compétitive, capable de mettre sur le marché des produits de meilleure qualité à très bon prix. Nous devons aussi être une économie qui accroisse l'offre, parce que le marché devenant de plus en plus important, il est important que la compétitivité aussi soit vu dans le sens de la quantité de produits à offrir sur le marché. Nous devons, et le procès Tchani l'a dit, l'espace économique doit devenir propice aux investissements. Il doit devenir propice à l'épargne, parce qu'il n'y a pas d'investissement sans épargne aussi. Et donc, c'est essentiel que nous puissions relever ces défis, et c'est possible. Ceux qui pensent que c'est compliqué, non, pas du tout. Il faut oser. Quand est-ce que nous allons oser mettre en place des politiques structurelles à même de transformer au bout de 5, 10 ans, 15 ans, notre économie? Ceci est possible. Mais je voulais profiter de cette question pour répondre rapidement à la problématique du risque de la baisse des recettes publiques avec cet engagement dans la zone de libre-échange continentale. Je voudrais relativiser la crainte. Pourquoi je l'ai dit? Le niveau des recettes douanières que la RDC prend par les échanges intra-africains n'atteint pas 10%. C'est moins que ça.
Parce que de toute manière, il y a beaucoup d'accords bilatéraux entre les pays africains. Nous appartenons à la SADC, nous appartenons à la CAC, nous appartenons au COMESA. Et toutes ces communautés économiques régionales nous offrent réciproquement des avantages douaniers qui font que les recettes douanières venant de ces pays ne sont pas très importantes. Par contre, les recettes douanes que nous avons le plus possible sont des recettes que nous avons du fait des échanges avec l'Europe et avec l'Asie qui sont en commerce avec nous de façon abondante et très très importante.
Et donc, si on vous a bien compris, on peut éliminer ces droits des douanes sans que cela ne puisse impacter négativement l'économie de la RDC.
Sans impacter négativement les recettes publiques de la RDC de façon substantielle. Seulement voilà, il faut transformer aussi la structure de nos régies financières. Vers les années 60, 40% des recettes publiques étaient dues du fait des recettes administratives domaniales, qu'est-ce que vous savez encore. Et donc, et puis les recettes des impôts. L'Europe aujourd'hui, avec l'Union européenne, ces recettes sont basées sur les recettes administratives, mais aussi les recettes d'impôts. Et donc nous devrions, lorsque nous avons une économie qui devient de plus en plus compétitive, lorsque nous avons une économie attractive des investissements directs étrangers africains, comme étrangers occidentaux ou asiatiques, mais en même temps que les Congolais qui sont capables d'innover, d'investir, trouvent dans leur propre pays le lieu où ils doivent investir leurs finances, vous allez voir que l'économie va se développer. Et par les recettes d'impôts et des recettes administratives, nous pouvons faire face à ces risques de perte des recettes douanières qui est mineur et qui n'impacte pas considérablement notre économie.
Merci, Monsieur Noël Tiani. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kassai.
Monsieur Jean-Pierre Maboudi, je vous appelle à partir de la province du Kassai. L'initiative de la création de la zone de libre-échange à travers un marché commun est la bienvenue. Cependant, certaines questions doivent être posées. La première, depuis l'adhésion de la RDC à l'espace WADA, le climat des affaires est-il assaini avec les droits WADA? Deuxième question, quel est l'apport en termes de marchandises de la RDC dans le marché commun? Troisième question, avec quel investisseur et travailleur la RDC a pour faciliter ces échanges? Je pense qu'on devrait d'abord tenir compte de ces interrogatoires, y compris les voies qui doivent permettre la libre circulation, ainsi que la fiscalité qui décourage les opérateurs et agents économiques.
Monsieur Noël Tiani.
Oui, je voudrais remercier le compatriote qui nous appelle du Kassai et qui soulève des questions d'une importance capitale. Vous avez mentionné donc l'OADA, le droit pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Depuis que la RDC donc a adhéré à l'OADA, je constate avec regret que nous sommes toujours à la traîne. Pourquoi? Parce que le climat des affaires en République démocratique du Congo ne nous positionne pas comme étant une des meilleures destinations des investissements en Afrique. Et bien au contraire, nous sommes même considérés comme étant l'une des pires destinations en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on regarde le rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale, nous sommes classés 161e sur 180 pays. Donc nous sommes parmi les pires pays en Afrique comme destination des investissements. Si bien que quand il y a des investisseurs extérieurs qui veulent investir en Afrique et qui regardent donc la RDC à comparer à d'autres pays comme le Maroc, comme le Botswana, comme le Rwanda, comme le Ghana, on a tendance à préférer ces pays-là par rapport à la RDC, malgré le fait que nous sommes au centre de l'Afrique, on a tout plein donc des potentialités, des ressources naturelles qui pouvaient constituer des avantages comparatifs par rapport aux autres. Donc nous avons un grand travail à faire pour améliorer l'environnement des affaires afin que nous devenions une meilleure destination des investissements. Maintenant, je voudrais que nous puissions situer tout ça dans un plan global. Malheureusement, actuellement, ou pendant les 22 dernières années, comme M. Kitenge l'a relevé, on a l'impression qu'on n'a pas une vision claire de développement. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous voulons arriver, par exemple, dans 15 ans, dans 20 ans? Moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Une vision de développement pour sortir du sous-développement, de la situation du manque d'industrialisation aujourd'hui, de la situation du chômage des masses, où nous avons 85% de la population active au chômage, afin de devenir un pays émergeant en 15 ans.
Maintenant, évidemment, au passage, on va revenir sur les solutions dans la deuxième partie, en fait, la troisième partie de l'émission. Mais vous avez évoqué au sujet de l'élimination des droits des douanes, vous avez souhaité qu'il y ait des études préalables, n'est-ce pas? Vous venez de suivre M. Jean-Lucien Boussa qui estime que dans les échanges intra-africains, on n'avait pas assez de recettes et que éliminer ces droits de douane ne pourra pas, n'est-ce pas, impacter négativement l'économie de la RDC.
Au lieu donc d'affirmer ces choses, je n'ai pas donc les informations que M. Boussa a, et je pense qu'il a des informations correctes. Mais en tant que pays, en tant que gouvernement, je recommande à notre pays de commissionner une étude spécifique, faite par des consultants recrutés par nous, les Congolais, en leur demandant de déterminer pour nous l'impact de l'entrée de la RDC dans la zone de libre-échange au niveau continental, et si nous entrons, quelles seront les conséquences, l'impact sur le budget, l'impact sur les recettes fiscales et consorts, de telle façon que nous puissions reconfirmer ces informations que vient donc de nous donner donc M. Boussa. Et si cela n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure corrective ou préemptive avant que nous puissions donc subir le sort?
Merci, M. Alkitenge. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, Sud Kivu.
Josué Assani Kisulu, depuis la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu. La zone de libre-échange a peu de chances pour sa réussite compte tenu de différents facteurs. Entre les jeux, le manque de volonté politique pour sa mise en application effective, car beaucoup d'initiatives d'organisations régionales et sous-régionales souffrent de l'inapplicabilité faute de mauvaise foi des parties prenantes. C'est ce qui explique d'ailleurs la raison du Nigeria de mettre quand même une certaine réserve dans la dite initiative-là. Deuxièmement, lancer la zone de libre-échange au stade actuel est inopportun, d'autant plus que ce serait en quelque sorte mettre la charrie devant les bœufs. Il serait mieux d'abord de procéder à la construction des routes qui pourraient faciliter le transport afin que la dite initiative-là soit efficace.
Monsieur Alkitenge.
Je suis content que les gens aillent dans tous les sens et notre frère Josué Assani Kisulu s'inquiète de manière extrêmement pessimiste de l'impréparation des infrastructures physiques. Je le remets simplement dans l'histoire, on n'était pas intégré sur le plan continental. La conséquence, c'est que nous n'avons pas d'infrastructure d'intégration. Maintenant, si nous avons un plan en commun, nous allons avoir de manière forcée des infrastructures qui vont nous permettre de nous unir. Et tout à l'heure, je disais par exemple que lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, nous sommes un point de coupure, aussi bien du point de vue des infrastructures physiques que des infrastructures numériques.
Alors, donc vous voulez dire que le mérite de ces projets, c'est celui d'inciter les pays les moins avancés, de pouvoir fournir beaucoup d'efforts afin de relever certains défis?
Non seulement de fournir beaucoup d'efforts, le NEPAD nous prend déjà en charge. Il y a un certain nombre de choses qu'on va absolument faire, parce que ça ne va pas être des infrastructures nationales, elles vont être des infrastructures transnationales. Et elles appartiendront simplement au continent. Et même les modes de financement vont être très différents. Par exemple, toute notre paresse légendaire va être dépassée. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons plus nous permettre de retarder le développement des autres. Donc on va nous entraîner dans une dynamique un peu plus grande. Nos questions de gouvernance et de corruption vont se retrouver sous un grand feu, une grande lumière qui vont démontrer de manière claire qu'un certain nombre de pratiques ne sont tout simplement pas faisables. Et donc, dans la dynamique collégiale et collective, nous allons avancer. Mais je voudrais lui donner un élément extrêmement important. L'Afrique avancera ou disparaîtra parce qu'elle ne pèse pas ou elle pèse face à la Chine, face à l'Occident. Chaque pays, comme l'a dit le docteur Cheney tout à l'heure, individuellement ne pèse pas du tout dans l'économie mondiale. Même le continent lui-même ne pèse pas grand-chose, mais on est mieux en étant ensemble plutôt qu'en étant chacun séparé. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants politiques congolais, africains plutôt, l'ont compris et ils ont signé cette convention internationale, ce qui est une très très bonne chose. Et je voudrais encore ici dire, nous ne devrons pas nous inquiéter des recettes douanières. pour une simple raison. Il n'y a aucun pays sérieux qui peut baser son développement sur les recettes douanières d'importation. Parce que lorsque vous importez les biens, ça veut dire qu'en fait vous payez les salaires, vous payez les taxes dans les pays qui vous ont envoyé la marchandise. Tous les pays du monde qui évoluent très bien exportent et donc produisent sur le territoire. Et nous avons le facteur déterminant de l'industrialisation, ça veut dire l'énergie. Et donc nous pouvons le mettre dans le jeu pour être en mesure de peser lourd. Par contre, il y a quelque chose d'extrêmement important. Dans la planification stratégique d'intégration dans la zone, il nous manquera, et il risque de nous manquer si nous n'avons pas de plan pour, un facteur extrêmement important, ce qu'on appelle le capital humain. Nous avons une espérance de vie de 52 ans, et ce n'est pas acceptable. Nos hommes ne seront pas compétitifs dans la zone. Deuxièmement, le niveau de formation de compétitivité individuelle est très faible. Donc il y a des réformes fondamentales dans l'amélioration de la compétitivité de l'être humain pour être en mesure de résister. Sinon, pour tous les boulots, nous aurons des Africains qui viendront travailler. Vous avez bien entendu que nous aurons une mobilité libre des biens et des personnes.
Alors, un facteur que vous n'avez pas relevé ici, c'est même la particularité de l'Afrique, c'est l'insécurité, hein, les différents conflits, n'est-ce pas, qui déstabilisent ces continents. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a relevé, n'est-ce pas, dans son discours. Et à votre avis, Al-Kitenge, comment peut-on arriver à relever ces défis?
Je pense que l'insécurité transfrontalière que nous avons sur le continent est liée à une hypocrisie légendaire que tout le monde connaît. Je me souviens avoir entendu un président dire à un autre, mais tout le monde sait très bien que les problèmes qu'il y a au Congo, c'est vous. Et dans un espace de convivialité, nous allons apprendre à gagner ensemble plutôt que de nous battre les uns contre les autres. Il est ridicule de penser qu'on peut voler une richesse qu'on peut acquérir de manière tout à fait transactionnelle. Et donc, je pense qu'avec l'agenda africain, les gens vont apprendre à avoir un espace de collaboration, un espace d'échange, un espace de planification organisée. Aujourd'hui, un certain nombre de pays sont presque obligés de nous voler des choses pour survivre, mais nous aurons des plateformes pour leur permettre de dire vous pouvez les acquérir de manière civilisée et de manière coordonnée.
Mais il a aussi dit que l'insécurité en Afrique n'est pas seulement le fait des Africains.
L'insécurité en Afrique est le fait de la corruption et de la corruptibilité des Africains. Tous les opérateurs économiques qui viennent faire des bêtises en Afrique, je parle de la fraude par exemple, dans le secteur minier, c'est lié au simple fait que nos administrations sont très faibles et nous avons malheureusement des gens qui sont très impliqués du point de vue du conflit d'intérêts dans les entreprises des autres qui affaiblissent l'État congolais et bien entendu qui favorisent la fraude. Vous savez, si vous regardez toutes les multinationales dont on se plaint, elles ont des règles de bonne conduite extrêmement sévères. Elles sont en grande partie cotées en bourse et donc tenues de manière sévère. Et si elles ne font pas des bêtises ailleurs, elles n'en font que ici particulièrement, c'est à cause de nous.
Monsieur Jean-Lucien Boussin, nous allons conclure l'émission parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et vous avez suivi, même Al-Kitenge l'a relevé, il a parlé de certains préalables que nous devons réaliser, notamment la mise en place d'un plan stratégique de travail. Vous avez été au gouvernement, n'est-ce pas, cela n'a pas été fait. Et vous ne pensez pas que le lancement de ces projets soit pour nous n'est-ce pas une interpellation pour que nous puissions justement mettre en place ces plans stratégiques de travail?
Nous avons un plan stratégique de développement dans le pays, mais qui n'est pas mis en application. Le problème, il faut une volonté politique claire aujourd'hui qu'il y a un changement, on peut dire, au niveau politique, que à ce niveau, l'impulsion nécessaire soit donnée pour la mise en œuvre du plan de développement économique, mais aussi pour la mise en œuvre des politiques économiques cohérentes. Mais alors, quatre éléments. Premier élément, il faut investir dans la connectivité à l'interne, l'intégration de l'économie nationale. Le Congo, c'est tout un continent.
Deuxième élément,
mais aussi,
on a passé du temps.
Deuxième élément, l'énergie. Investir dans l'énergie.
Troisième élément,
transformer structurellement l'économie, ça veut dire industrialiser, la rendre compétitive. Quatrième élément, améliorer l'espace économique congolais pour le rendre plus attractif aux investissements.
Merci Noël Tchani. Vous allez aussi conclure, vous parlez, n'est-ce pas, de votre plan Marshall.
Je pense que en tant que pays, la République démocratique du Congo a besoin de ce que Al-Kitenge ici appelle donc un plan d'action. Moi j'appelle ça une stratégie globale de développement. Parce que faire des actions par-ci par-là qui ne sont pas intégrées dans une vision de développement global, ça ne nous amène nulle part. Je voudrais souligner quelques points importants. La première chose, c'est que nous parlons aujourd'hui de l'intégration au niveau continental.
On a pas de temps, hein?
Mais nous oublions que nous devons d'abord faire l'intégration au niveau national. Relions les 26 provinces de la RDC. Et maintenant, au-delà donc de cette intégration nationale, nous devons améliorer la gouvernance.
Merci.
Combattre la corruption pour mobiliser les ressources.
Merci.
Nous devons mettre en place les infrastructures de base.
Merci. Al-Kitenge, votre conclusion.
Le chef de l'État a l'opportunité de briller de mille feux, qu'il mette en place une task force avec une cinquantaine de stratèges congolais pour être en mesure de planifier cette intégration.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à Polydor Boissonga qui était à la technique, Kelly Nkouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi des programmes sur Radio Okapi.